Chapitre 14. Thaddée avait des parents, des connaissances, des amis avec lesquels il avait rompu en s'enterrant à la campagne. Personne ne venait le voir, il n'allait chez personne. La cour de son habitation avait été envahie par l'herbe et les broussailles. Le propriétaire avait oublié l'ancienne société au milieu de laquelle il avait vécu. Ce jeune homme élégant et gai était devenu un triste solitaire. Il s'était empaysanné, pour Oulana, il s'était rouillé. À l'origine, il n'avait pas même le regret de l'existence qu'il avait abandonnée, après avoir été échaudé. En échange, il avait accepté un nouvel amour, une nouvelle vie, aussi lourde maintenant que des fers. La honte, le remords la lui rendaient de jour en jour plus insupportable. Il n'avait néanmoins pas assez de volonté pour s'y soustraire. Il aimait encore, mais son amour rassasié, noir de soucis, ne durait que soutenu par la pitié et guillonné par l'habitude. Déjà, cependant, l'avenir lui semblait parfois lourd et triste. Il fuyait souvent Oulana, et errait sur les bords du lac, seul avec ses pensées. Il lui arrivait souvent la nuit de rêver à son ancienne vie, à ses amis, même à son infidèle amante. Et il s'élançait hors de lui, le cœur palpitant, il poussait les soupirs, mais il se disait à lui-même, « Qu'y a-t-il de meilleur et de plus beau dans la société que j'ai abandonnée pour elle ? Seulement plus d'élégance et de mensonges. Parmi ces autres femmes, quelle est celle qui aurait pu m'aimer ainsi ? Elle qui n'aime qu'elle-même, mérite-t-elle d'être pleurée ? Ne m'ont-elle pas trahi, délaissée, oubliée ? En existe-t-il d'autres qui vaillent davantage et qui puissent me donner un bonheur supérieur à celui dont je jouis ? L'infortuné qualifiait encore de bonheur sa détresse et ses remords. Il se mentait à lui-même et se faisait à croire à lui-même qu'il ne regrettait rien et qu'il ne pleurait sur rien. Et cependant, il songeait chaque jour plus souvent à son existence d'autrefois et s'entourait chaque jour plus profondément de ses vieux souvenirs. Il se sentait avili, abaissé à ses propres yeux et qui pisait, cruellement fautif. Sa faute lui était tellement présente à l'esprit. Elle était si récente, ses traces n'étaient pas encore effacées. Cela seul lui faisait désirer de s'arracher de la campagne et d'auprès d'Oulana. Mais comme beaucoup d'individus exaltés de sentiments, il manquait de résolution. Il se débattait dans un cercle qu'il ne réussissait pas à franchir et dépensait infiniment d'énergie dans de stériles et convulsifs tiraillements avec lui-même. Un matin d'été, il se leva de meilleure heure que de coutume, exalté par des rêves qui, toute la nuit, lui avaient bercé le cœur avec d'anciennes réminiscences. Il se déroba à Oulana, qui le saluait d'un sourire et d'un regard, et qui implorait une bonne parole, et à défaut de cela, fut seulement un sourire et un regard. Il commanda sa meute pour chasser, ce qu'il n'avait plus fait depuis longtemps, mais il avait besoin de fuir la maison, d'être seul et de se recueillir au milieu du murmure des bois. Il sortit. Des gouttes de rosée perlaient encore sur les arêtes des herbes, des plantes et des arbrisseaux, dont les feuilles étincelaient en réfléchissant les rayons du soleil naissant qui s'élevaient à travers des nuages blanchâtres. De légères vapeurs, suspendues dans les airs, voilaient encore les prairies. Les oiseaux chantaient, les paysans allaient aux champs, les campagnes couvertes de seigles berçaient leurs épis d'or pâles inclinés sur leurs tiges, et le sarrasin fleuri embaumait l'air pur et léger d'une senteur douce à respirer. Thaddée s'avançait vers la forêt où on devait lâcher les chiens après les lièvres. Il y avait longtemps qu'il n'avait chassé, et il s'était mis en campagne sans son ardeur et sa fougue d'autrefois. La tête baissée, les bras croisés, ignorant où il allait, il se laissa conduire par ses gens et placer à l'affût sur la grande route. Il fit choix d'un tronc d'arbre contre lequel il appuya son fusil, s'assit et s'absorba dans ses pensées. Les chiens n'aboyaient pas encore, les cimes des arbres bruissaient au milieu du silence environnant. On entendait seulement, quelque part au loin, un paysan tailler un pain à coups de hache. Le tintement des grelots et le roulement d'une voiture résonnèrent soudain. Un voyageur passait sur la route. Thaddée releva la tête et le suivit des yeux. Le bruit des grelots et le fracas des roues, on ne sait pourquoi, fit battre son cœur, lui qui vivait depuis longtemps dans l'isolement. Il était assis au bord même de la route. Bientôt apparut une légère berline attelée de 4 chevaux et dans laquelle se trouvait un homme jeune encore. La voiture roulait lentement et non sans chaos sur une route où les arbres avaient poussé leurs racines. Le voyageur fixa son regard sur le chasseur qui le dévisageait de son côté. En dépassant Thaddée, il tourna la tête vers lui et cria à son cocher « Halte là !» Thaddée, tout rouge, tout honteux et tout confus, se leva du tronc sur lequel il était assis. « Thaddée ! Oh, c'est toi, Auguste ! Mais comment vas-tu, solitaire ? Comment vas-tu ? Mais c'est à peine si je t'ai reconnu, tellement tu es changé !» Thaddée soupira et ne répondit rien. Il serra seulement en silence la main d'Auguste, et celui-ci le regardait dans les yeux avec une curiosité pleine d'intérêt. « Tu demeures pas loin d'ici ? Oh non, tout près, viens chez moi. Mais comment ? Très volontiers. Allez, monte avec moi, ou bien, attends, pourquoi interromprais-je ta chasse ? Que les chevaux aillent en avant, nous resterons ici à causer librement. « Paul, dit-il au cocher, « va au château tout près d'ici. Comment ton village s'appelle-t-il »« Le lac. »« Rends-toi au lac, dételle les chevaux, donne-leur l'avoine et dis qu'on prépare à déjeuner. » Thaddée remercia d'un geste. L'attelage partit, tandis que s'asseyait et se mettait à causer à leur aise. Auguste était un camarade d'école de Thaddée, son compagnon à l'université, son ancien ami. Qui ne sait ce que sont ces amitiés d'enfance, ces liens indissolubles qu'aucune force ne saurait rompre entièrement, car les souvenirs enchanteurs de la jeunesse les maintiennent. Dans un âge plus avancé, les relations se nouent et se dénouent, on contracte des amitiés et on y renonce sans regret. C'est aux anciens amis de la jeunesse que, fussent-ils indignes d'un sentiment généreux, le cœur vous ramène toujours. Auguste était pour Thaddée un vivant souvenir. C'était l'un de ses plus dignes camarades, de ses meilleurs amis. D'un noble caractère, plein de franchise, jovial, hardi, il s'impatronisait de force dans votre cœur et vous contraignait à l'aimer. Dévoué à ses amis, il s'employait pour eux et pensait plus à eux qu'à lui. Il ne demandait jamais l'aide d'autrui et était toujours prêt à rendre service à chacun. Thaddée, depuis son dernier séjour à la ville, qu'avait terminé un événement si tragique, n'avait pas revu Auguste, qui, revenu à la campagne, habitait à 20 lieues de lui. L'excellent Auguste s'informait de Thaddée et les 100 voix de la renommée qui colportent si vite tout incident un peu étrange lui avaient apporté la description des amourettes du solitaire et de toutes leurs conséquences. Si encore il n'avait appris que la vérité, mais quantité de fausseté, d'exagération s'y étaient mêlées en route. Auguste considérait son ami avec sollicitude et pitié. Il pouvait à peine le reconnaître, tant il était changé, avec le visage pâli, les paupières fatiguées qui lui tombaient sur les yeux, un front ridé, des lèvres serrées, et le chagrin qui envahissait des traits prématurément vieillis et fanés. Écoute donc, disait Auguste. Une fois que nous nous sommes rencontrés, allez, parlons franchement. Est-ce vrai ce qu'on raconte de toi? Et que dit-on? Demanda Thaddée avec un douloureux sourire. Bien que tu t'es amouraché, car je ne sais quel terme employer, d'une paysanne dont le mari a mis le feu chez toi, qu'ensuite. Mais tout cela est vrai, repartit vivement. Je suis tombé amoureux, et tu vois à quoi cela m'a conduit, comme cela m'a exténué, desséché. Oh, c'est que j'ai beaucoup souffert, mais un amour tel que le sien méritait qu'on souffrît beaucoup. Auguste éclata de rire. Ah, ah, allez donc. Je t'avouerai que je ne conçois pas un pareil amour. C'est je ne sais quelle aberration qui peut bien durer un moment, mais pas longtemps. Thaddée sourit et haussa les épaules. Oh, tu ne la connais pas. Tu ne peux concevoir la passion, l'attachement de cette femme. J'en ai eu 100 fois la preuve pendant ma terrible maladie. Elle a séché sur pied, sans quitter mon chevet. Elle m'a sacrifié ses enfants, sa pudeur, tout. Oh, son cœur vaut celui d'une reine. Auguste contemplait avec surprise et chagrin cette exaltation de Thaddée. Que diable, se disait-il en lui-même, il est devenu totalement fou. Par charité, il faut y remédier, ou c'est un homme perdu. Eh bien quoi, ajoutait-il à haute voix, penses-tu donc roucouler avec elle les siècles des siècles? Mais rien ne peut nous séparer. Nous sommes liés par les larmes, les souffrances, la mort, le feu, le crime, de communs sacrifices. Mais c'est qu'aussi tu verses dans le pathétique, répliqua Auguste. Et moi je voulais froidement causer avec toi, mon cher. Or donc, franchement, la main sur le cœur, au nom de notre vieille amitié, est-ce que tu n'es pas déjà là de cette existence? Thaddée le regarda, baissa les yeux et détourna la tête avec trouble. Oh, il n'est plus temps de reculer, exclama-t-il d'une voix sombre. Oh, pardon, il est toujours temps de cesser de faire des sottises. Auguste, tu t'es tellement réfrigéré. Mais toi, Thaddée, tu es fou. Penses-tu à vieillir, à te rouiller, à sécher avant le temps au pied de ton omphale villageoise? Mérite-t-elle que tu lui sacrifies le monde entier et tes espérances, ton avenir? Mais elle m'a tout sacrifié. Mais en fin de compte, tu te tueras, tu t'abîmeras, tu n'y résisteras pas. Cette vie sans la moindre distraction, sans incident, sans rien de vivifiant, t'empoisonnera par son uniformité. Tant que tu seras avec elle, tu devras t'isoler du monde entier, parce que notre société impitoyable ne l'acceptera jamais. Tu es un banni, noté la famille. Thaddée soupira. Mais il faut venir à ton secours, continua Auguste. Je suis perdu, répondit Thaddée. Laisse-moi tranquille. Cela ne regarde personne, puisque je suis heureux. Heureux, s'écria Auguste, mais est-ce que tu t'abuses? Mais tu ne l'es pas. Examine-toi, rentre en toi-même. Tu te tortures horriblement dans les fers que tu t'es toi-même forgé. À ce moment, les chiens commencèrent à donner de la voix, et les chasseurs saisirent leurs fusils. Un instant après, plusieurs coups de feu retentirent de côté et Thaddée, impatienté, jeta son arme sur l'épaule. « Allons à la maison, dit-il. Allons !» En route, il discourait de nouveau et Thaddée raconta en détail à son ami l'histoire de ses amours. Dans ses paroles perçait tant de tristesse, il était tellement évident que le présent lui pesait comme une pierre, qu'Auguste, pénétré de pitié, résolut en esprit de détacher Thaddée d'Oulana, de l'arracher à cette pernicieuse solitude et à la folie que révélait la bizarrerie de la situation. Il arrive très souvent que la venue d'un individu d'un autre monde, dans d'autres dispositions, avec une autre manière de voir, ouvre les yeux de l'homme aveuglé, dont elle a interrompu l'isolement. L'homme s'accoutume peu à peu à la situation la plus singulière, se familiarise avec elle et en admet la nécessité. L'œil, qui n'est pas habitué à ce spectacle, voit d'une manière frappante ce qu'il a de ridicule. Oui, en vivant dans l'étouffante atmosphère d'une prison, on se fait à cet air-là. Mais celui qui y pénètre du dehors en sent la pesanteur et la fétidité. Il est ensuite souvent plus difficile au captif de respirer dans sa prison, parce qu'ayant vu notre poitrine oppressée dans cette atmosphère, il s'aperçoit qu'elle est asphyxiante pour lui aussi. Il veut s'y dérober et passe la tête à travers les barreaux de fer. Il en était précisément ainsi de Thaddée. Il s'était accoutumé à sa position, il n'en sentait plus l'inconvenance, la lourdeur, l'opprobre. Auguste commençait seulement à lui ouvrir les yeux. Thaddée éprouva une honte et une inquiétude qui redoublèrent la mélancolie à laquelle il était déjà disposé. Mais revenons à eux. Les voilà sur le perron de l'habitation. Oulana, inquiète, regarde par la fenêtre. C'est le premier hôte qui, de son temps, soit venu au lac. Elle ne sait que faire d'elle-même. Accoutumée à courir au-devant de Thaddée, à ne pas le quitter d'un pas, à le servir, elle est maintenant retenue par la honte qui a parlé à son cœur. Et le visage collé à la vitre, elle regarde soucieuse. Elle voudrait courir à lui, et elle n'ose. Quelque chose lui pèse sur l'âme et l'agite. Elle maudit cet hôte. Elle serait ravie de s'en débarrasser. Elle le redoute, pressentant qu'un étranger ne peut lui apporter rien de bon. Thaddée l'aperçut, se détourna et rougit. Auguste devina aussi que cette femme aux yeux noirs et au regard de flamme, c'était l'amante de son ami, c'était Oulana. Il s'arrêta sur le seuil et la considéra avec surprise et curiosité, jusqu'à ce que cet examen eût obligé Oulana, rougissante, à baisser la tête et à s'éloigner de la fenêtre. « Elle est vraiment belle, » dit Auguste, « mais il y en a tant de plus belles que cela de par le monde. » Thaddée, qui franchissait le seuil en ce moment, n'entendit pas cette exclamation. Auguste resta toute la journée et Oulana ne put se montrer. Deux ou trois fois, elle s'approcha de la porte avec une curiosité enfantine et une crainte prophétique, et il lui fallut s'enfuir. Thaddée vint pour un moment la trouver. Elle lui demanda avec une naïve impatience, « Mais quand partira-t-il ?»« Je l'ignore, » répondit Thaddée avec froideur et embarras. Et les yeux d'Oulana, son âme, sa passion, sa curiosité, ses craintes le suivirent lorsqu'il sortit. Et affligée, elle s'assit et pleura. Son cœur éprouvait un chagrin vague et de l'oppression. Le soir vint et Auguste ne partit pas. Elle se laissa tomber tout en pleurs sur son lit, dans sa petite chambre. Et auprès du feu qui flambait dans la cheminée, elle passa seule pour la première fois depuis bien longtemps la soirée dans de solitaires méditations. Et là-bas, les deux amis causaient si gaiement. Leur voix parvenait aux oreilles de la pauvre Oulana. Leurs paroles même arrivaient jusqu'à elle. Elle ne pouvait saisir la signification ni de leur voix ni de leurs paroles, mais elle en avait peur, sans les comprendre. Et son pressentiment ne la trompait pas. Auguste engageait Thaddée à quitter son château. « Écoute, lui disait-il, si ton attachement résiste à la distraction, à la séparation, aux impressions nouvelles, je ne dirai pas un mot. Tu reviendras chez toi, à ton ancienne vie. Ce sera la preuve qu'il n'y a plus d'autre avenir pour toi. Mais pourquoi ne pas tenter de remède, ne pas se laver de cette tâche? Je suis en route pour Varsovie. Ne voudrais-tu point, après tant d'années, revoir cette ville ?» Thaddée finit par ne pas répondre. Auguste le pressait. Mais ce soir-là, il ne put encore rien obtenir. Sans y être invité, il demeura un jour de plus au lac, et avec l'opiniâtreté d'un ami convaincu de l'utilité de ses conseils, il insistait pour le départ, exhortait, pressait, encourageait et priait. Thaddée se renfermait de plus en plus dans un mutisme complet. Il se disculpait de moins en moins, enfin, il se mit à arguer de difficultés insignifiantes qu'Auguste écartait sans peine. « Mais nous partons, lui dit-il en l'embrassant. Allez, tu dois partir. Mais que deviendra Oulana? Mais qu'elle t'attende, laisse-la ici même, comme maîtresse absolue de maison. Mais on y persécutera. Mais tu déraisonnes de nouveau. Il faut que tu partes, et je te dis que tu pars avec moi. Mais comment lui annoncerai-je? Oh, si tu veux, je m'en charge. Non, non, laisse-moi la paix. Ça ne se peut pas, je ne partirai pas. Non, tu m'as donné ta parole, tu pars pour 2 semaines. Thaddée sortit et courut tout droit à la chambre d'Oulana. Elle était assise auprès de la fenêtre, et la tête appuyée sur la main, elle contemplait le lac étincelant. C'était un regard qui ne voit rien, vitreux, immobile. Elle avait les yeux noyés de larmes qui, malgré elle, s'échappaient imperceptiblement de ses paupières et lui coulaient le long du visage. Lorsqu'il entra, elle tressaillit mais sourit. « Eh bien, il est parti !» s'écria-t-elle. « Non !» répondit résolument Thaddée. « Pas encore, mais il part, et moi avec lui. » Elle eut un moment de stupeur. « Et moi ?» demanda-t-elle en se tordant les mains et en levant la tête. « Toi, oh, tu resteras ici. Je reviendrai bientôt, » balbutia Thaddée en s'approchant d'elle. « Je te laisse maîtresse de la maison. Je ordonnerai que chacun t'obéisse et je reviendrai vite, vite, » ajouta-t-il en se préparant à montrer du courage. Oulana se couvrit les yeux de la main, baissa la tête et murmura en sanglotant. « Oh, comme vous voudrez, moi je puis retourner dans ma chaumière. »« Mais je ne le veux pas, qu'as-tu donc ?» s'écria Thaddée. « Je serai vite de retour dans 1 semaine. »«
Dans 1 semaine, est-ce là bientôt ?» demanda-t-elle.
Thaddée souffrait horriblement. Il avait le visage en feu et ne savait comment terminer l'entretien commencé. Heureusement que Jacques entra, et les ordres pour le voyage, les dispositions pour la maison, interrompirent cette périlleuse explication. Oulana retourna à la fenêtre et n'en bougea plus. Le lendemain matin, les chevaux attelés stationnaient devant le perron, et Thaddée ne pouvait pas encore s'arracher aux embrassements de cette femme presque folle, qui voulait qu'il l'emmenât avec lui.
« Mais si je perdrais la raison, gémissait-elle, seul on m'y tuera, je n'y résisterai pas. »
Thaddée la tranquillisait en vin, promettant un prompt retour. Dans la dernière étreinte, comme si elle pressentait un autre avenir, elle l'enserra et le pressa si fortement qu'à l'appel d'Auguste, il dut s'arracher presque violemment de ses bras et se sauva en baisant ses yeux inondés de larmes. Un bruyant sanglot le poursuivit. Oulana n'osait courir dehors, elle craignait l'étranger et les yeux du monde. Seulement elle gagna une fenêtre qui donnait sur la cour pour ne pas perdre Thaddée du regard. Son cœur lui disait qu'il ne reviendrait pas tel qu'il était parti. Et lui, ben lui aussi la regardait. En ce moment, elle lui était plus chère que jamais. L'instant de la séparation double les attachements, même expirants, et en ravive la force, pour peu de temps, il est vrai, mais non sans danger. Souvent, cette crue passagère de tendresse consterne l'homme et le menace d'une douleur plus vive qu'il n'en aura jamais en réalité.
Thaddée, triste et nébuleux, prit place à côté d'Auguste. Il dit adieu du regard à la pauvre Oulana, et son cœur lui promettait de revenir vite, très vite, demain. Il ignorait que le sentiment qu'il éprouvait à cette heure, il allait l'éparpiller en route, et que chaque minute écoulée, chaque sensation nouvelle, chaque nouveau spectacle, en emporterait un lambeau. Le soir n'était pas encore venu que déjà un demi-sourire, qui n'y avait pas été vu depuis longtemps, se jouait sur les lèvres de Thaddée. Le bon Auguste le distrayait par de joyeux propos, le forçait à oublier sa maison et lui-même. Il choisissait les historiettes les plus gaies, les aventures les plus étonnantes, et quand il aperçut pour la première fois que le rire épanouissait les traits de son ami, il se sentit presque heureux. Ô médecin, ô médecin, quel triomphe que de préserver de la mort un malheureux et de le condamner à souffrir encore en l'arrachant de la folle étreinte sous laquelle il aurait voluptueusement expiré. Et combien l'œuvre accomplie vous paraît grande. Chapitre 15. Oulana resta seule avec sa passion, sa tristesse, ses pensées. Seule, horriblement seule. Elle n'avait pas de moyen de s'arracher à leur obsession. Elle était vouée aux larmes. Les gens d'une autre condition guérissent leur douleur, leur désespoir, en s'éloignant de la cause qui engendre leur peine, en rejetant bien loin d'eux toute idée noire, et en se créant une autre vie artificielle pour remplacer celle qu'ils ont perdue. Ce n'était pas au pouvoir d'Oulana. Elle demeura dans la solitude où tout lui rappelait Thaddée, sans s'occuper ni se distraire, absorbée en elle-même, en son chagrin. La semaine s'écoula ainsi. Assise sous les peupliers au bord du lac, elle s'attendait à voir arriver Thaddée et elle prêtait l'oreille à chaque roulement de voiture. Au moindre bruit dans la cour, son cœur battait. Souvent elle se levait pendant la nuit et courait regarder s'il n'était pas là. Il ne revenait pas. Seule, complètement seule, elle comptait les journées longues, vides, pâles, passées auprès de sa quenouille, au jardin, dans des rêveries tristes et monotones. Maintes fois déjà, elle regrettait l'ancienne existence qu'elle avait abandonnée, avec laquelle elle avait rompu à jamais, car du village montaient à elle des voix bruyantes, libres, gaies, de gens plus heureux qu'elle. Et ces gens la considéraient comme perdue. Rien ne la rattachait plus à eux. Elle leur était étrangère. Ils la saluaient d'un sourire sardonique, d'un coup d'œil sombre. Aucun d'eux ne lui adressait le moindre mot, ni ne lui tendait la main. Là-bas, de l'autre côté du lac, au milieu des blondes boissons, brillaient les blanches chemises des faucheurs dont les chansons parvenaient jusqu'à l'oreille d'Oulana et lui rappelaient son indépendance d'autrefois. Et elle était affaissée et les bras pendants, nulle chanson sur ses lèvres, désœuvrée, sans but, chaque jour plus affligée, parce qu'elle attendait chaque jour vainement son retour. Il n'était pas là. Le soir, elle voyait les paysans s'assembler près de l'auberge et sauter au son du violon et du tambourin. Elle écoutait la danse joyeuse et essuyait ses larmes du coin de son blanc tablier. Bannie d'un monde et sur le seuil d'un autre, l'exilée tendait en vain les mains vers le premier et vers le second. Aucun des deux ne l'accueillait. Aujourd'hui, elle a perdu le bonheur, son cœur bat pour son ancienne et natale vie rustique. Les accents du village éveillent un écho dans son âme, et l'attachement mélancolique pour sa famille se trouve au fond de chacune des larmes qu'elle verse. Mais elle n'a plus à retourner chez les siens, ni peut-être à les revoir. Partout, l'enfer de la solitude, le calme du désert et la mort. La seconde semaine s'écoula, il ne revint pas. il ne donna même pas de ses nouvelles. Oulana, de jour en jour plus inquiète, restait seule, toujours seule. Personne ne la console, personne ne lui parle. Tous lui obéissent, mais personne ne se soucie d'elle. Parfois, elle se hasarde à saluer un passant en sollicitant une bonne parole, et elle ne reçoit qu'un coup d'œil méprisant et sombre. Le dimanche suivant, elle se souvint de ses enfants et fondit en larmes. « Ils sont orphelins, » pensa-t-elle, « prématurément orphelins. Oh, il faudrait aller les voir, les embrasser, les caresser un peu. » Et elle songeait à se rendre auprès d'eux, mais elle craignait que Thaddée ne revînt à cet instant. Or, elle voulait être la première à le rencontrer, à le saluer. Elle demanda qu'on lui amenât ses enfants. Le soir, Priska les conduisit au château et les laissa à Oulana. Les enfants ne la reconnurent presque pas. Et elle? Son cœur était tellement plein d'un autre amour, d'autres sentiments que la vue de ses enfants ne le remet même pas. Elle se tordit les mains en les regardant. « Mais ce sont des orphelins, » se dit-elle mentalement. « Et que leur suis-je? Serais-je une mère pour eux? Oh non! Je les regarde comme s'ils m'étaient étrangers. Je pense à eux comme à des étrangers. Je ne peux plus être leur mère. Je ne saurais plus l'être. » Et de ce qu'elle ne pouvait plus les aimer, elle pleurait de nouveau sur eux et sur elle-même. On emmena les enfants, sans que son regard ni son cœur les accompagnassent d'un regret. Dans ses oreilles bourdonnait sans cesse le roulement de la voiture qu'elle espérait, et la pensée du retour de Thaddée faisait seule battre son cœur. Et lui, il ne revenait pas. Toute douleur après celui ou après celle qu'on aime est lourde pour l'homme. Mais lorsqu'il faut la supporter seule, sans l'appui d'autrui et du monde, et qu'elle s'allonge sans fin comme l'ombre du soir, oh, alors il est malaisé de vivre avec elle. Et cependant, une telle douleur vous tue rarement. Seulement elle accable, tourmente, irrite, mais elle n'ôte pas la vie. Chaque jour pèse davantage à Oulana. Chaque jour son chagrin est plus écrasant, mais l'espoir luit encore et elle répète « Il reviendra ». Quand elle est assise dans sa chambrette, elle fixe des journées entières ses regards sur la fenêtre du côté de la route. Et souvent, si le fil de sa quenouille est rompu, elle attend pendant des heures, l'œil et l'oreille tendues, le roulement désiré de la voiture. Le soir, elle se promène sur les bords du lac. Elle s'assied à l'endroit où elle a été assise avec lui. Elle pense à lui et elle regarde le chemin. Et elle ne s'enfonce jamais trop dans les fourrés, de peur de perdre de vue la chaussée par laquelle il reviendra. La route est couverte de la poussière soulevée par les chariots des paysans, par les troupeaux du village, par les carrioles des petits propriétaires des environs, et c'est tout. Les cloches de l'église sonnent le dimanche et appellent le peuple à la prière et la population s'y rend à la hâte, par la route, dans des casaques neuves et avec des mouchoirs et des fichus blancs, pour invoquer Dieu et se prosterner devant la Sainte Vierge. Elle ne peut pas aller à l'église. Elle a honte des gens et peur qu'ils ne surviennent pendant qu'elle sera à la messe. Elle s'assied donc, le visage tourné vers l'église, et ses yeux ne quittent point la route. Elle ne sait demander à Dieu que de ramener son maître et de faire que le faucon regagne de nouveau son nid. La route est déserte une semaine, puis deux, et quatre, et six, et huit, et dix. Autant de jours, autant de déceptions. Combien de fois ne semble-t-il pas qu'il approche? Elle reconnaît déjà les chevaux, elle se précipite à sa rencontre. La voiture s'éloigne le long de la chaussée et disparaît dans les bois. Ce n'est pas lui. Chaque fois, elle baisse tristement la tête. Les larmes s'échappent de ses yeux noirs et de nouveau, elle attend et de nouveau, en vain. L'automne arriva, joyeuse saison pour le villageois, qui lui était plus triste, à elle, que l'été. Il lui est indifférent qu'il y ait abondance, car elle ne manque de rien. C'est tout un pour elle qu'on moissonne plus ou moins, et que Dieu ait donné une bonne ou une mauvaise récolte. Une seule chose l'occupe, c'est qu'il est absent, et toujours absent. Déjà, toutes les feuilles sont tombées des arbres et jaunies jonchent le sol. Dans le jardin, il ne se dresse plus que des tiges desséchées et des troncs noircis. Le vent du nord pousse les nuages et il fait froid de rester assis au bord du lac. Elle y est toujours, parce que de là, elle aperçoit la route. La route est déserte. Un matin, M. Linovski entra dans sa chambrette. « Bonjour, lui dit-il familièrement. » Oulala se leva en sursaut, son cœur battait. « J'ai des nouvelles du Seigneur. »« Reviendra-t-il bientôt ? » s'écria-t-elle en bondissant vers lui. « Reviendra-t-il bientôt ?» Linovski sourit. « Oui, voici ce qu'il en est. Il écrit qu'il reviendra bientôt, mais avec des hôtes. »« Avec des hôtes ?» s'écria-t-elle en fronçant le sourcil, et elle ajouta, « Oh, pourvu qu'il revienne enfin !»« Oui, avec des parents, » ajouta de nouveau M. Linovski. « Et ils sont allés trois au château. Le Seigneur m'écrit que vous déménagiez dans la maisonnette au bord du lac. » Oulana mesura de ses grands yeux celui qui lui parlait, et se tint immobile et silencieuse. « C'est bien, » répondit-elle, j'y vais à l'instant. » Et elle se remit à rassembler ses effets en pleurant, si bien que Linovski fut touché de ce spectacle. « Oh, ne vous dépêchez pas, » dit-il doucement. « Pourvu que mon maître revienne au plus vite, » murmura-t-elle tout bas. Et tout en s'en allant, elle pensait en elle-même. « Oh, je n'avais pas tort d'être inquiète. Il m'a déjà chassée du logis. Les gens ont médit, les gens veulent nous séparer. Mais il reviendra, et tout avec lui. » Et en se consolant, elle était pourtant anxieuse et pleurait. Elle arriva à la maisonnette abandonnée et courut aussitôt à la fenêtre pour voir si de là on distinguait la route. Ah, on n'apercevait même pas la route. Elle s'assit sur un banc poussiéreux, appuya sa tête sur sa main et demeura ainsi 1 et 2 heures jusqu'au soir. Cette maisonnette était si horriblement vide. Personne n'y habitait plus depuis longtemps, excepté des rats et des souris. Une cheminée démolie, un poêle fêlé, une table boiteuse, un banc le long du mur composaient tout le mobilier. Personne avec elle, ni même personne à proximité. Le soir approchait, le froid devenait plus pénétrant. Les domestiques eurent toutefois pitié d'elle et vinrent allumer un feu chétif et froid comme la compassion d'indifférent. Elle ne bougea pas, se répétant mentalement, « Il m'a chassé !» Elle passa toute la nuit sur le banc. Le feu s'éteignit, elle n'ajouta pas de bois. Le jour parut, elle ne se leva pas. Elle perdit ce qui lui restait de sentiment, de présence d'esprit et d'espoir. Et, comme les vagues qui tantôt avancent vers le rivage et tantôt s'en éloignent, l'espérance tantôt affluait à son cœur et tantôt s'en éloignait, après s'être brisée contre lui. Une semaine s'est écoulée dans cette maisonnette abandonnée, et il n'est pas encore là. Il ne revient pas. Deux fois déjà, la neige blanche est tombée et s'est fondue sur le sol légèrement congelé. Deux fois, les rives du lac se sont hérissées de morceaux de glace cristalline. Il est toujours absent. Oulana s'asseyait encore tous les jours sous les peupliers. Elle regardait, 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 sanglotait, chaque jour espérant moins et craignant davantage. Son retour déjà lui paraissait souvent effrayant. Et s'il revenait changé, et s'il revenait et ne me jetait pas un coup d'œil, s'il me repoussait, ne m'a-t-il pas chassé du logis? Mais qu'il ne revienne plutôt jamais, se disait-elle. Je préfère l'attendre ainsi jusqu'à la mort que de finir par voir ce à quoi je ne survivrai pas.
Dernier chapitre 16. Par une nuageuse matinée d'automne, une voiture lourdement chargée, longeant le bord du lac, s'apercevait de loin sur la route. Les chevaux avançaient lentement sur un sol dont la gelée avait durci les aspérités. Oulana, assise, observait l'horizon. Elle reconnut les chevaux, étendit les bras. Un cri allait s'échapper de sa poitrine. La voix lui manqua. En ce moment, les rideaux du carrosse s'écartèrent et une tête d'homme se montra. De loin le reconnut, de loin le pressentit. C'était lui. Et derrière lui, appuyé sur son épaule, se pencha la tête d'une autre personne, d'une jeune et belle femme. Oulana laissa retomber ses bras. Ses yeux restèrent immobiles de stupeur. Son cœur palpita plus violemment encore. Elle ne regarda plus sur la route. Mais elle courut vers sa maisonnette, ouvrit la porte, se couvrit les yeux et s'affaissa sur le sol. Que se passait-il dans son âme? Ce qui se passera dans notre monde au jour du jugement dernier, et ce que des paroles ne sauraient exprimer. Pendant ce temps, la voiture s'arrêta devant le château. Les serviteurs sortirent au-devant de leur maîtresse, lui offrirent le pain, le sel, et Thaddée descendit de sa calèche, aidant sa femme à en faire autant, mais maussade, sombre, inquiet. Son regard errait alentour, craignant de rencontrer le regard d'Oulana. Il se fixa sur la fenêtre de sa chambrette. Elle était close, silencieuse, sombre. Il soupira. Ils entrèrent. La première voiture fut suivie d'une seconde et d'une troisième. Le château était plein d'hôtes. Il y eut de l'animation, de la gaieté, du mouvement partout. La fumée s'élevait au-dessus des cheminées, et dans la cour et dans les appartements, ce ne fut que bruit et agitation. Thaddée, le premier moment d'effroi passé, retrouva sa bonne humeur, chassa tout souci, s'occupa de ses devoirs de maître de maison et se ranima en installant sa femme. Mais aussi combien la femme de Thaddée est jeune et jolie. Elle a, comme Oulana, des yeux noirs, mais ils ne sont pas cernés à force de larmes. Ils sont au contraire limpides et brillants, surmontés de noirs sourcils bien arqués, dominant un petit nez retroussé qui rit, de mignonnes lèvres vermeilles qui rit, et auprès desquelles se creusent deux petites fossettes, deux nids à sourire. Et elle est gaie, car elle ne cesse de se trémousser, de courir, de babiller, de fureter. Tantôt elle bat des mains, tantôt elle secoue la tête, et tantôt elle lutine son mari. Elle a mis le nez à chaque fenêtre, franchi une porte après l'autre, tourné dans chaque chambre, visité chaque coin, regardé longtemps, longtemps le lac, et la route au-delà du lac, et ensuite elle a soupiré. Après qui? Pourquoi? Peut-être après sa mère, son pays natal. Peut-être, oh, personne ne sait pourquoi elle a soupiré. Ce soupir à peine évanoui, le sourire a couru sur ses lèvres, sautillé dans ses yeux et s'est joué dans ses paroles. Et elle s'est éloignée de la fenêtre. Thaddée s'approcha d'elle, lui passa un bras autour de la taille et la conduisit partout dans le château, le lui montrant, lui remettant les clés et la caressant avec de tendres paroles.
Elle riait gaiement et parfois soupirait à la dérobée, mais cela, il ne l'entendait ni il ne le voyait. Ainsi s'écoula toute la première journée, jusqu'à ce qu'un soir d'automne, accompagné d'un vent lugubre, d'une pluie froide et de nuées noires, eût envahi l'horizon. Le château était resplendissant, joyeux, bruyant. La maisonnette d'Oulana était déserte, sombre, silencieuse et triste. Oulana était accroupie auprès de son foyer éteint de la veille, et elle regardait sans voir. Elle réfléchissait. C'était chez elle une succession de pensées sans ordre, noires ou brillantes, confuses ou sanglantes. Elle n'avait pas de larmes aux yeux. Tari était déjà la source d'où elle coulait, qui avait gelé avec le lac. Elle se parlait à haute voix elle-même. « Il est revenu, il s'est marié, il m'a chassé. Pourquoi vivrais-je? Je n'ai pas d'enfant ni de cœur pour les enfants. Je n'ai personne. Tous les miens m'ont abandonné et lui m'a délaissé. Je suis inutile à lui et aux autres et je ne saurais supporter la vie. Oh non, que je meure et que tout finisse. Du moins il me plaindra après ma mort. Il versera quelques larmes et dira que je l'ai fortement aimé jusqu'à mon dernier souffle. Chez eux, la mémoire est faible et l'amour passager. Lourde croix pour moi, pardonne-moi, mon Dieu. » Et en marmottant des paroles déjà incompréhensibles, elle déroula la ceinture rouge qui saignait sa casaque, en trottinant par la chambre sans plus savoir ce qu'elle faisait. Oh, s'il était possible de le revoir encore, de causer encore une fois et d'être assise à ses côtés comme jadis. Non, non, il y aurait plus de peine à mourir. Il serait plus triste de le quitter. Les cheveux en désordre, le regard égaré, Oulana s'échappa de sa maisonnette, courant sur les mottes de terre durcies jusque sous les fenêtres du château. Des lumières brillaient aux fenêtres, on entendait de joyeux éclats de voix. Au dehors sifflait une bise glacée et d'épaisses ténèbres obscurcissaient tristement le ciel. Elle se faufila tout près de la fenêtre, colla son œil au carreau et regarda. Le feu flambait dans la cheminée. Tout autour, il y avait des inconnus. Les uns étaient debout, d'autres assis, d'autres circulaient, plusieurs jouaient à une table. Et toutes les figures étaient tellement animées, gaies, vermeilles, que c'était à en être jaloux. Thaddée se tenait au milieu avec sa femme. Il lui avait passé le bras autour de la taille, elle avait penché la tête sur son épaule et le dévisageait de ses yeux malins. Ils se souriaient l'un à l'autre en chuchotant à voix basse. Oulana se sentit mal. Elle éprouva au cœur un saisissement douloureux, mortel. Et elle ne cessa pourtant de regarder longtemps, longtemps, ne pouvant détacher ses yeux de lui. Elle lui faisait ses adieux pour toujours. Enfin, elle s'arracha avec effort de la fenêtre, s'éloigna du château et s'élança vers le lac en serrant entre ses doigts sa ceinture rouge. Elle foulait un sentier tapissé de feuilles mortes qui conduisait à l'endroit de la rive où, sous les peupliers, il y avait ce banc bien connu d'elle. Elle jeta un dernier coup d'œil sur le château aux fenêtres étincelantes qui brillaient sur la colline. Elle lui fit ses adieux du regard. Ensuite, elle saisit le tronc d'un peuplier et l'entourant de ses bras, elle se prit à pleurer. La ceinture rouge tremblait dans ses mains. Elle se tint un moment encore ainsi, les yeux fixés sur la fenêtre par lequel elle l'avait aperçue pour la dernière fois. Puis elle sauta vivement sur le banc et passa sa ceinture à une branche de peuplier, essayant si cette branche la supporterait. se préparant lentement, attentivement à la mort, pourvu que celle-ci ne pût la tromper comme les hommes. Elle monta sur le banc et regarda encore et pleura encore en se passant la ceinture autour du cou. Au dernier instant de sa vie, elle s'inonda de larmes. « Oh, je l'ai tant aimé, j'ai tout quitté pour lui, je lui ai tout sacrifié. Et lui !» Elle hocha tristement la tête. Un pareil amour devait finir ainsi. La pauvre Oulana se signa en se tournant vers l'église. Elle traça un signe de croix dans les airs en se tournant du côté de ses enfants et considéra encore le château. Un instant après, le vent bruissait dans le feuillage des peupliers et à une branche se balançait le corps refroidi d'Oulana. Deux larmes s'étaient gelées à ses paupières. Au château, on buvait à la santé du jeune couple.